Chapitre 4. La force de ne plus rien lâcher. La soirée est agréable et la lumière sublime sur les arbres en face d'eux. Une grenouille posée sur une feuille de nénuphar s'enivre d'un dernier rayon de soleil avant la nuit. Les deux carpe-coy se croisent dans un mouvement hypnotique, sous-marin ondulant et inoffensif, loin de l'agitation du monde. Au second plan, la forêt se repose, après avoir été bousculée toute la journée par des vents tournoyants. Ce calme est si profond qu'il surprend certains visiteurs. Un silence qui ne laisse parler que la nature. Les novices vous diront qu'on n'entend rien, pas de voiture, de moto, de train, d'avion, pas même de cris d'enfant. Mais une oreille attentive percevra le chant des feuilles, celui des oiseaux, la source qui coule dans l'étang, les insectes du soir, parfois des feuilles mortes qu'un merle remue dans les sous-bois à quelques dizaines de mètres de là et qui fait à lui seul le bruit d'un sanglier. L'homme regarde la maison de l'autre côté de l'étendue d'eau, la grange un peu plus loin, le bâtiment pour les animaux, encore vide du foin qui finit de mûrir dans les prés. Il est fier du travail qu'ils ont accompli. Leur rencontre sur un quai de gare 3 ans auparavant n'en finit pas de l'étonner. Un hasard, suivi d'un autre, puis d'une évidence. « Tout est prêt ? Et toi ?» lui demande-t-elle en s'approchant un peu plus de lui et en fouissant le bout du nez dans son cou. « Oui, et toi ?» Elle est prête. Capucine et Adrien finalisent enfin le projet fou de restaurer cette ruine pour en faire une bulle au milieu du chaos. Leur chaos, à eux, qui sont venus ranger ici entre les fleurs et les nuages, et maintenant celui des autres, des chaos différents. Mais quel que soit le tas de peurs, de peines, de souffrances, la façon de ranger est sensiblement la même, déblayer, trier, bâtir avec ce qu'on trouve dans les gravats, sublimer pour rendre beau ce qui a été terrible, reconstruire des âmes brisées, comme celle de Capucine il y a quelques années, comme celle d'Adrien. Ils se sont posé la question tout au long des travaux. Prenons-nous les bonnes décisions? Saurons-nous accueillir, guider, ou au contraire, suffira-t-il de laisser faire? Et à chaque fois, la même réponse. À part tenter, comment savoir? L'essai commence demain. Elle frissonne. Une fois le soleil caché derrière la montagne, la fraîcheur de l'altitude reprend ses droits. Elle préfère la chair de poule aux peaux moites qui n'ont pas envie de se toucher. Il la prend sur ses genoux et l'enveloppe autant qu'il peut. Cet homme a été un abri dès le premier jour, dans l'intention puis dans les gestes. 4 murs et un toit dissimulés entre ses 2 grands bras solides et fragiles à la fois. Des bras qui ont depuis malaxé du ciment, coupé des taillis, creusé des trous, vissé des planches. Des bras qui ont couvert des cloisons d'enduit à la chaux et des sols de parquet, qui ont pris des notes, tourné des pages pour apprendre, comprendre, inventer. Des bras pour l'attirer contre lui quand elle ne savait pas s'arrêter ou pour la motiver quand elle n'avait plus envie. Des bras qui se sont accrochés à un hélicoptère quelques années plus tôt pour ne pas mourir et qui ont gardé de cette épreuve la force de ne plus rien lâcher. Surtout pas elle. « Je vais le prévenir de leur venue », annonce-t-elle en se redressant. Avec le temps, il aime de moins en moins les surprises. « Il les verra peut-être arriver avant nous, du haut de son banc », répond Adrien en la retenant. Ce sont plutôt les arrivants que nous devrions prévenir de sa présence quotidienne derrière chez nous. Tu pourras le lui dire, demain matin, en lui déposant le pain. J'ai envie de te garder contre moi. On est bien là, non? Tu penses que tout se passera au mieux? Soyez juste. Le reste viendra de surcroît. Adrien cite Tchekhov en la serrant encore plus fort comme pour appuyer son propos.